Chapitre 5. Flanqué de mon double, je parcours la rue. Nous avons quitté le quartier du commandant, mais ici encore, il y a de vastes demeures. Devant l'une d'elles, un gardien tond la pelouse. Les pelouses sont bien entretenues, les façades plaisantes, en bon état. On dirait les magnifiques photographies que l'on voyait avant dans les revues sur les maisons et les jardins et la décoration d'intérieur. Même absence de gens, même impression de sommeil. La rue est presque comme un musée ou une rue de maquettes construites pour montrer comment les gens vivaient autrefois. Comme dans ces images, ces musées, ces maquettes de ville, il n'y a pas d'enfants. Nous sommes au cœur de Gilead, là où la guerre ne peut pas faire intrusion, sauf à la télévision. Où sont les frontières? Nous n'en sommes pas sûrs. Elles varient selon les attaques et contre-attaques. Mais nous sommes ici au centre, où rien ne bouge. La République de Gilead, disait Tante Lydia, ne connaît pas de frontières. Gilead est en vous. Ici vivaient jadis les médecins, des avocats, des professeurs d'université. Il n'y a plus d'avocats, et l'université est fermée. Luc et moi nous promenions ensemble, parfois, le long de ces rues. Nous parlions d'acheter une maison semblable à l'une de celles-ci. Une grande vieille maison que l'on aménagerait. Nous aurions un jardin, des balançoires pour les enfants. Nous aurions des enfants. Tout en sachant qu'il était peu probable que nous en ayons un jour les moyens, c'était un sujet de conversation, notre jeu du dimanche. Pareille liberté paraît aujourd'hui presque aérienne. Nous tournons au coin d'une rue principale, où il y a davantage de circulation. Des voitures passent, noires pour la plupart, quelques-unes gris et marron. Il y a d'autres femmes avec des paniers, certaines en rouge, d'autres portant le vert terne des Martha, d'autres vêtues de robes à rayures rouges, bleues et vertes, bon marché et étriquées, qui signalent les épouses des hommes pauvres. On les appelle les économophames. Elles ne sont pas réparties selon leurs fonctions. Elles doivent tout faire, si elles le peuvent. Parfois, on voit une femme tout en noir, une veuve. Il y en avait davantage avant, mais elle semble se faire rare. On ne voit pas les épouses des commandants sur les trottoirs, seulement dans les voitures. Les trottoirs ici sont en ciment. Comme un enfant, j'évite de marcher sur les rainures. Je me rappelle mes pieds sur ces trottoirs dans le temps d'avant et comment j'étais chaussée. Parfois, c'était des chaussures de course, avec des semelles rembourrées et des trous d'aération. Et des étoiles, d'une matière fluorescente qui reflétait la lumière dans l'obscurité. Pourtant, je ne courais jamais de nuit, et dans la journée, seulement au long de routes bien fréquentées. Les femmes n'étaient pas protégées en ce temps-là. Je me souviens des règles, qui n'étaient jamais précisées, mais que toute femme connaissait. Ne pas ouvrir la porte à un étranger, même s'il affirme être de la police, lui demander de glisser une pièce d'identité sous la porte. Ne pas s'arrêter sur la route pour aider un automobiliste qui prétend être en difficulté. Garder les portières verrouillées et poursuivre sa route. Si quelqu'un siffle, ne pas se retourner. Ne pas se rendre dans une laverie automatique seule, la nuit. Je pense aux laveries automatiques. À ce que je portais pour m'y rendre. Shorts, jeans, survêtements. À ce que j'y mettais. Mes propres vêtements, mon propre savon. Mon propre argent, l'argent que j'avais gagné moi-même. Je songe à ce que représentait cette indépendance. À présent, nous parcourons la même rue, par paires rouges, et aucun homme ne nous crie d'obscénité, ne nous parle, ni ne nous touche. Personne ne siffle. « Il y a plus d'une sorte de liberté, » disait Tante Lydia. « La liberté d'eux et la liberté par rapport à... » Au temps de l'anarchie, c'était la liberté d'eux. Maintenant, on vous donne la liberté par rapport à. Ne la sous-estimez pas. Devant nous, à main droite, se trouve le magasin où nous commandons nos vêtements. Certains les appellent habits, ce qui leur va bien. Il est difficile de se déshabituer. À l'extérieur du magasin, il y a une énorme enseigne de bois en forme de lys. Il s'appelle le Lys des Champs. On peut voir l'endroit sous le lys où l'inscription a été badigeonnée de peinture. quand ils ont décidé que même le nom des magasins constituait une trop grande tentation pour nous. Maintenant, ils ne sont marqués que par leurs enseignes. Le Lys était un cinéma avant. Les étudiants le fréquentaient assidûment. Au printemps, il y avait toujours un festival Humphrey Bogart, avec Lorraine Bacall, Katharine Hepburn. Des femmes à part entière, qui prenaient leurs propres décisions. Elles portaient des corsages boutonnés sur le devant qui suggéraient les possibilités du verbe défaire. Ces femmes pouvaient être défaites ou pas. Elles semblaient avoir le choix alors. Nous semblions avoir le choix alors. Notre société se mourait, disait Tante Lydia, à cause de trop de choix. Je ne sais pas quand ils ont cessé de tenir ce festival. Je devais être adulte. C'est pourquoi cela m'a échappé. Nous n'entrons pas au Lys, mais traversons la rue et longeons une rue latérale. Notre premier arrêt est un magasin avec une autre enseigne en bois. 3 œufs, une abeille, une vache. Lait et miel. Il y a la queue et nous attendons notre tour, 2 par 2. J'ai vu qu'ils avaient des oranges aujourd'hui. Depuis que l'Amérique centrale est aux mains d'Aliberto, il est devenu difficile de trouver des oranges. Parfois il y en a, d'autres fois pas. La guerre perturbe les arrivages d'oranges de Californie. Et on ne peut même pas compter sur la Floride à cause des barrages routiers et des voies de chemin de fer qui parfois ont sauté. Je contemple les oranges avec envie. Mais je n'ai pas apporté de ticket pour les oranges. Au retour, j'en parlerai à Rita. Cela lui fera plaisir. Ce sera quelque chose, un petit exploit, d'avoir fait advenir des oranges. Celles qui sont parvenues au comptoir remettent leur ticket aux 2 hommes en uniforme de gardien qui se tiennent de l'autre côté. Personne ne parle guère, quoiqu'il y ait un murmure et que les têtes des femmes remuent furtivement de droite et de gauche. Ici, en faisant les commissions, on pourrait voir quelqu'un de connaissance. Quelqu'un qu'on aurait connu dans le temps d'avant, ou au centre rouge. Juste apercevoir l'un de ces visages donne du courage. Si je pouvais voir Moira, seulement la voir, savoir qu'elle existe toujours. C'est difficile à imaginer ces jours-ci d'avoir une amie. Mais De Glenn, à côté de moi, ne regarde pas. Peut-être ne connaît-elle plus personne. Peut-être ont-elles toutes disparu, les femmes qu'elle a connues. Ou peut-être ne veut-elle pas être vue. Elle est plantée là, en silence, la tête baissée. Alors que nous attendons dans notre file double, la porte s'ouvre et 2 autres femmes entrent, toutes 2 vêtues de la robe rouge et des ailes blanches des servantes. L'une d'elles est très manifestement enceinte. Son ventre, sous son vêtement ample, se gonfle triomphalement. Il y a un mouvement dans la boutique, un murmure, une échappée de souffle. Malgré nous, nous tournons la tête ouvertement, pour mieux y voir. Nos doigts brûlent de la toucher. Elle est pour nous une présence magique, un objet d'envie et de désir. Nous la convoitons. Elle est un drapeau au sommet d'une colline qui nous montre ce qui peut encore être accompli. Nous aussi pouvons être sauvés. Les femmes dans le magasin se mettent à murmurer, presque à parler, tant leur excitation est grande. J'entends derrière moi, « Qui est-ce ?» De Wayne. Non, de Warren. Chiquet, souffle une voix, et c'est vrai. Une femme aussi enceinte n'a pas à sortir, n'est pas tenue d'aller faire les courses. La promenade quotidienne n'est plus obligatoire pour entretenir le bon fonctionnement de ses muscles abdominaux. Elle n'a besoin que des exercices au sol et de travailler sa respiration. Elle pourrait rester à la maison, et c'est dangereux pour elle d'être dehors. Il doit y avoir un gardien à la porte, à l'attendre. À présent qu'elle est porteuse de vie, elle est plus proche de la mort et doit être particulièrement protégée. La jalousie pourrait l'atteindre. C'est déjà arrivé. Tous les enfants sont désirés maintenant. Mais pas par tout le monde. Mais cette promenade pourrait être un caprice de sa part. Et il se plie au caprice quand la chose est aussi avancée et qu'il n'y a pas eu de fausse couche. Ou peut-être est-elle une de ces « Tout ce que vous voudrez, je tiendrai le coup ». Une martyre. J'aperçois son visage au moment où elle le lève pour regarder alentour. La voix derrière moi avait raison. Elle est venue s'exhiber. Elle est rayonnante, rose, se délecte de chaque minute de cette scène. « Silence !» dit l'un des gardiens derrière le comptoir, et nous nous taisons comme des écolières. De Glenn et moi sommes parvenus au comptoir. Nous présentons nos tickets et un gardien inscrit leur numéro sur le calculatron, tandis que les autres nous remettent nos achats, le lait, les œufs. Nous les mettons dans nos paniers et ressortons, en passant près de la femme enceinte et de sa partenaire qui, à côté d'elle, paraît rabougrie, ratatinée, comme nous toutes. Le ventre de la femme enceinte est pareil à un énorme fruit. Maus, mot de mon enfance. Elle a les mains posées dessus, comme pour le défendre. Ou comme si elles en tiraient quelque chose, de la chaleur et de la force. À mon passage, elle me regarde droit dans les yeux, et je sais qui elle est. Elle était au centre rouge avec moi. C'était l'une des favorites de Tante Lydia. Je ne l'ai jamais aimée. Dans le temps d'avant, elle s'appelait Janine. Janine me regarde alors, et autour des coins de sa bouche, il y a l'ombre d'un sourire narquois. Elle jette un regard à l'endroit où mon ventre est plat, sous ma robe rouge, et les ailes masquent son visage. Je ne peux voir qu'un peu de son front et le bout rosé de son nez. Ensuite, nous allons à Tout Viande, qui est marqué par une grande côtelette de porc en bois, suspendue à deux chaînes. Il n'y a pas trop de queue ici. La viande est chère, et même les commandants n'en consomment pas tous les jours. De Glenn achète pourtant du steak, et c'est la deuxième fois cette semaine. Je le dirai aux Martha. C'est le genre de choses qu'elles aiment savoir. Elles s'intéressent beaucoup à la manière dont les autres maisons sont gérées. Ces bribes de petits potins leur donnent des occasions de fierté ou de mécontentement. Je prends le poulet, enveloppé dans du papier de boucher et bridé avec de la ficelle. Il n'y a plus grand-chose qui soit en plastique maintenant. Je me rappelle les innombrables sacs en plastique blanc du supermarché. Je n'aimais pas les jeter, et je les fourrais sous l'évier, jusqu'au jour où il y en avait trop, et qu'en ouvrant la porte du placard, ils ballonnaient au dehors et se répandaient par terre. Luc s'en plaignait souvent. Périodiquement, il prenait tous les sacs et les jetait. « Elle risque de s'en fourrer un sur la tête, » disait-il. « Tu sais, les jeux qui amusent les enfants. » Je répondais, « Elle ne ferait jamais une chose pareille. Elle est trop grande, ou trop maligne, ou trop chanceuse. » Mais je sentais un frisson de peur, puis de culpabilité, du fait d'avoir été si négligente. C'était vrai. Je pensais que trop de choses allaient de soi. Je faisais confiance au destin, alors. « Je les rangerai plus haut dans le placard, » disais-je. « Ne les range nulle part, » répondait-il. « On ne s'en sert jamais. »« Sac poubelle, » disais-je. Il disait « Pas ici, maintenant. Pas où des gens peuvent me voir. » Je me retourne. J'aperçois ma silhouette dans la vitrine en glace sans teint. Donc nous sommes sortis. Nous sommes dans la rue. Un groupe de gens s'avance vers nous. Ce sont des touristes. Des Japonais, semble-t-il. Une délégation commerciale qui visite les sites historiques ou est en quête de couleurs locales. Ils sont minuscules et propres. Chacun et chacune a un appareil photographique et un sourire. Ils regardent autour d'eux, les yeux brillants, en tournant la tête de côté, comme des rouges-gorges. Jusqu'à leur bonne humeur est agressive, et je ne peux m'empêcher de les dévisager. Il y a longtemps que je n'ai pas vu de femme porter des jupes aussi courtes. Elles leur arrivent juste au-dessous du genou, et les jambes en émergent, presque nues, sous leurs bas fins, voyantes. Elles ont des souliers à talons hauts, dont les lanières s'attachent à leurs pieds comme de délicats instruments de torture. Les femmes vacillent sur leurs pieds acérés, comme sur des échasses, mais en déséquilibre. Le dos cambré à la taille, les fesses rejetées en dehors. Elles ont la tête découverte et leurs cheveux aussi sont exposés. Dans toute leur noirceur et toute leur sexualité. Elles portent du rouge à lèvres carmin, qui dessine les contours de la cavité humide de leur bouche, comme les graffitis de murs de toilette autrefois. Je cesse d'avancer. De Glenn s'arrête à côté de moi, et je sais qu'elle non plus ne peut détacher les yeux de ces femmes. Nous sommes fascinés, mais aussi dégoûtés. Elles paraissent déshabillées. Il a fallu si peu de temps pour changer notre façon de voir, pour ces choses-là. Puis je pense, je m'habillais de la même façon. C'était la liberté. Occidentalisée, disait-on. Les touristes japonais se dirigent vers nous, en gazouillant, et nous détournons la tête trop tard. Nos visages ont été vus. Ils ont un interprète, costume bleu standard et cravate à motif rouge, avec l'épingle représentant l'œil ailé. C'est lui qui se détache, sort du groupe, devant nous, nous bloque le passage. Les touristes se massent derrière lui. L'un brandit un appareil de photo. « Excusez-moi !» nous dit-il à toutes les deux, assez poliment. « Ils demandent s'ils peuvent prendre votre photo !» Je baisse les yeux sur le trottoir, secoue la tête pour signifier « Non !» Ce qu'ils doivent voir, c'est seulement les ailes blanches, un bout de visage, mon menton et une partie de ma bouche. Pas mes yeux. Je me garderais bien de regarder un interprète droit en face. La plupart des interprètes sont des yeux. Du moins, c'est ce que l'on dit. Je me garderai tout autant de dire « oui ». « La modestie, c'est d'être invisible », disait Tante Lydia. « Ne l'oubliez jamais. » « Être vu. » « Être vu. » C'est être. » Sa voix tremblait. « Pénétrer. » « Ce que vous devez être, mesdemoiselles. » « C'est impénétrable. » Elle nous appelait mesdemoiselles. À mes côtés, De Glen aussi est silencieuse. Elle a fourré ses mains gantées de rouge dans ses manches pour les cacher. L'interprète se retourne vers le groupe, leur débite un discours staccato. Je sais ce qu'il doit leur dire. Je connais le refrain. Il doit leur dire que les femmes d'ici ont des coutumes différentes, que les dévisager à travers la lentille d'un appareil de photo équivaut pour elle à être violée. Je fixe le trottoir, hypnotisée par les pieds des femmes. L'une d'elles porte des sandales à bout ouvert. Les ongles de ses orteils sont peints en rose. Je me rappelle l'odeur du vernis à ongles, la manière dont il se ridait quand on appliquait la seconde couche trop vite, le frôlement satiné de collant fin contre la peau, ce que ressentaient les orteils, poussé vers la découpe de la sandale par tout le poids du corps. La femme aux orteils vernis passe d'un pied sur l'autre. Je peux sentir ses chaussures, comme si je les portais moi-même aux pieds. L'odeur du vernis à ongles m'a donné faim. « Excusez-moi !» dit encore l'interprète, pour attirer notre attention. Je fais un signe de tête pour montrer que je l'ai entendu. Il demande « Est-ce que vous êtes heureuse ?» Je peux l'imaginer, leur curiosité. Sont-elles heureuses? Comment peuvent-elles être heureuses? Je sens leurs yeux noirs brillant sur nous, la manière dont ils se penchent légèrement en avant pour saisir nos réponses. Les hommes surtout. Mais les femmes aussi. Nous sommes secrètes, interdites. Nous les excitons. De Glen ne dit rien. Il y a un silence. Mais parfois, il est tout aussi dangereux de ne pas parler. Je murmure. Oui, nous sommes très heureuses. Il faut bien que je dise quelque chose. Que puis-je dire d'autre ?